Lutte nouvelle. Après la mort de Bouddha, l'on montra encore pendant des siècles son ombre dans une caverne. Une ombre énorme et épouvantable. Dieu est mort, mais à la façon dont sont faits les hommes, il y aura peut-être encore pendant des milliers d'années des cavernes où l'on montrera son ombre. Gardons-nous. Gardons-nous de penser que le monde est un être vivant. Comment devrait-il se développer? De quoi devrait-il se nourrir? Comment ferait-il pour croître et s'augmenter? Nous savons à peu près ce qu'est la matière organisée. Et ce que nous percevons d'indiciblement dérivé, de tardif, de rare, de hasardé sur la croûte de la Terre, nous irions jusqu'à en faire quelque chose d'essentiel, de général et d'éternel, comme font ceux qui appellent l'univers un organisme. Voilà qui m'inspire le dégoût. Gardons-nous déjà de croire que l'univers est une machine. Il n'a certainement pas été construit en vue d'un but, en employant le mot « machine », nous lui faisons un bien trop grand honneur. Gardons-nous d'admettre pour certains, partout et d'une façon générale, quelque chose de défini comme le mouvement cyclique de nos constellations voisines. Un regard jeté sur la Voie lactée évoque déjà des doutes, fait croire qu'il y a peut-être là des mouvements beaucoup plus grossiers et plus contradictoires, et aussi des étoiles précipitées comme dans une chute en ligne droite, etc. L'ordre astral où nous vivons est une exception. Cet ordre, de même que la durée passable qui en est la condition, a de son côté rendu possible l'exception des exceptions. La formation de ce qui est organique, la condition générale du monde est, par contre, de toute éternité, le chaos, non par l'absence d'une nécessité, mais au sens d'un manque d'ordre, de structure, de forme, de beauté, de sagesse, et quelles que soient nos humaines catégories esthétiques. Au jugement de notre raison, les coups malheureux sont la règle générale. Les exceptions ne sont pas le but secret, et tout le mécanisme répète éternellement sa ritournelle qui jamais ne saurait mériter le nom de mélodie. Et finalement, le mot « coup malheureux » lui-même comporte déjà une humanisation qui contient un blâme. Mais comment oserions-nous nous permettre de blâmer ou de louer l'univers? Gardons-nous de lui reprocher de la dureté et de la déraison? Ou bien le contraire? Il n'est ni parfait, ni beau, ni noble, et ne veut devenir rien de tout cela. Il ne tend absolument pas à imiter l'homme. Il n'est touché par aucun de nos jugements esthétiques et moraux. Il ne possède pas non plus d'instinct de conservation, et d'une façon générale, pas d'instinct du tout. Il ignore aussi toutes les lois. Gardons-nous de dire qu'il y a des lois dans la nature, il n'y a que des nécessités. Il n'y a là personne qui commande, personne qui obéit, personne qui enfreint. Lorsque vous saurez qu'il n'y a point de fin, vous saurez aussi qu'il n'y a point de hasard. Car ce n'est qu'à côté d'un monde de fin que le mot « hasard » a un sens. Gardons-nous de dire que la mort est opposée à la vie. La vie n'est qu'une variété de la mort et une variété très rare. Gardons-nous de penser que le monde crée éternellement du nouveau. Il n'y a pas de substance éternellement durable. La matière est une erreur pareille à celle du dieu des Éléates. Mais quand serons-nous au bout de nos soins et de nos précautions? Quand toutes ces ombres de Dieu ne nous troubleront-elles plus? Quand aurons-nous entièrement dépouillé la nature de ses attributs divins? Quand aurons-nous le droit, nous autres, hommes, de nous rendre naturels avec la nature pure, nouvellement trouvée, nouvellement délivrée? Origine de la connaissance. Pendant d'énormes espaces de temps, l'intellect n'a engendré que des erreurs. Quelques-unes de ces erreurs se trouvèrent être utiles et conservatrices de l'espèce. Celui qui tomba sur elles ou bien les reçut par héritage accomplit la lutte pour lui et ses descendants avec plus de bonheur. Il y a beaucoup de ces articles de foi erronés qui, transmis par héritage, ont fini par devenir une sorte de fond commun de l'espèce humaine, par exemple. Qu'il existe des choses durables et identiques, qu'il existe des objets, des matières, des corps, qu'une chose est ce qu'elle paraît être. que notre volonté est libre, que ce qui est bien pour les uns est bon en soi. Ce n'est que fort tardivement que se présentèrent ceux qui niaient et mettaient en doute de pareilles propositions. Ce n'est que fort tardivement que surgit la vérité, cette forme la moins efficace de la connaissance. Il semblait que l'on ne pouvait pas vivre avec elle, notre organisme étant constitué pour la contredire. Toutes ses fonctions supérieures, les perceptions des sens et, d'une façon générale, toute espèce de sensation, travaillaient avec ces antiques erreurs fondamentales qu'elle s'était assimilées. Plus encore, ces propositions devinrent même, dans les bornes de la connaissance, des normes d'après lesquelles on évaluait le vrai et le non-vrai, jusque dans les domaines les plus éloignés de la logique pure. Donc, la force de la connaissance ne réside pas dans son degré de vérité, mais dans son ancienneté, son degré d'assimilation, son caractère en tant que condition vitale. Où ces deux choses, vivre et connaître, semblaient entrer en contradiction, il n'y a jamais eu de lutte sérieuse. La négation et le doute passaient alors pour folie. Ces penseurs d'exception qui, comme les Éléates, établirent et maintèrent malgré cela les antinomies et les erreurs naturelles, s'imaginèrent qu'il était aussi possible de vivre ces antinomies. Ils inventèrent le sage, l'homme de l'immuabilité, de l'impersonnalité, de l'universalité de l'intuition, à la fois un et tout, avec une faculté propre pour cette connaissance à rebours. Ils croyaient que leur connaissance était en même temps le principe de la vie. Cependant, pour pouvoir prétendre tout cela, il leur fallut se tromper sur leur propre état. Ils durent s'attribuer de l'impersonnalité et de la durée sans changement, méconnaître l'essence de la connaissance, nier la puissance des instincts dans la connaissance et considérer, en général, la raison comme une activité absolument libre sortie d'elle-même. Ils ne voulaient pas voir qu'eux aussi étaient arrivés à leurs principes, soit en contredisant les choses existantes, soit par besoin de repos ou de possession ou de domination. Le développement plus subtil de la probité et du scepticisme rendit enfin ces hommes également impossibles. Leur vie et leur jugement apparurent également comme dépendant des antiques instincts et erreurs fondamentales de toute vie sensible. Ce scepticisme et cette probité, plus subtile, se formèrent partout où deux principes opposés semblaient applicables à la vie. Parce que tous deux s'accordaient avec les erreurs fondamentales, où l'on pouvait donc discuter sur le degré plus ou moins considérable futilité pour la vie. De même, là où des principes nouveaux, s'ils ne se montraient pas favorables à la vie, ne lui étaient du moins pas nuisibles, étant plutôt les manifestations d'un instinct de jeu intellectuel innocent et heureux comme tout ce qui est jeu, peu à peu, le cerveau humain s'emplit de pareils jugements et de semblables convictions, et, dans cette agglomération, il se produisit une fermentation, une lutte et un désir de puissance. Non seulement l'utilité et le plaisir, mais encore, toute espèce d'instinct prirent parti dans la lutte pour la vérité. La lutte intellectuelle devint une occupation, un charme, une vocation, une dignité. La connaissance et l'aspiration au vrai prirent place enfin comme un besoin au milieu des autres besoins. Depuis lors, non seulement la foi et la conviction, mais encore l'examen, la négation, la méfiance, la contradiction devinrent une puissance. Tous les mauvais instincts étaient sous-ordonnés à la connaissance, placés à son service. On leur prêta l'éclat de ce qui est permis, vénéré et utile, et finalement le regard et l'innocence du bien. La connaissance devint dès lors un morceau de la vie même, et en tant que vie, une puissance toujours grandissante. Jusqu'à ce qu'enfin, la connaissance et ses antiques erreurs fondamentales se heurtassent réciproquement, les unes et les autres en tant que vie, que puissance au sein du même individu. Le penseur, voilà maintenant l'être ou l'instinct de vérité, et ces erreurs qui conservent la vie livrent leur premier combat après que l'instinct de vérité, lui aussi, s'est affirmé comme une puissance qui conserve la vie. Par rapport à l'importance de cette lutte, tout le reste est indifférent. La question dernière quant à la condition de la vie est ici posée. Et la première tentative est faite ici pour y répondre par l'expérience. Jusqu'à quel point la vérité supporte-t-elle l'assimilation ? Voilà la question. Voilà l'expérience à faire.